Frontières, l'émission du World Property Business Club en partenariat avec Agence Étoile.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Immobilier sans frontières, premier numéro de l'année 2022. Et pour fêter ça, eh bien, nous allons partir du côté d'un très joli coin puisque nous allons partir du côté de la Floride aux États-Unis. Et pour en parler, je suis évidemment en compagnie d'André Périssel et Ingrid Damoiseau. Bonjour à tous les deux. Et très belle année 2022.
Bonjour Jeanne, bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'immobilier international pour cette nouvelle année ?
On souhaite une belle année 2022 à l'immobilier international.
Super,
et
très bien.
Beaucoup d'affaires pour nous.
Beaucoup d'affaires, beaucoup peut-être aussi d'investisseurs étrangers qui reviennent en France.
Exactement.
On espère, on croise les doigts. André, Ingrid, vous n'êtes pas venus seuls ce matin. On est très bien entourés. Le plateau est plein. C'est la folie pour cette émission de rentrée. Le temps de saluer Caroline Loget et Olivier Cassado. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes les cofondateurs de Caro et Olive, une agence dont on parlera dans quelques instants. Le temps de dire bonjour à Daniel Kijner. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes broker-owner de Kijner & Son International Realty, Compass Floride. C'est donc en Floride, sur la baie de Tampa, je crois. C'est bien ça ?
Entre autres, sur la côte ouest. Et puis aussi, mais en tant que broker associé avec Compass sur Miami et toute la côte est.
On en reparlera également dans quelques instants, puisque c'est le thème de notre émission du jour, la Floride. Le temps de traiter l'actualité du World Property Business Club.
L'actualité du World Property Business Club.
Alors Ingrid, on commence avec vous, qui dit nouvelle année, dit également bilan de l'année écoulée. Est-ce que vous pouvez nous parler du profil des acquéreurs internationaux pour l'année 2021 ?
Oui, bien sûr. Alors nous savons qu'en 2021, via le site PropStar, qui a interrogé 700 utilisateurs de son portail immobilier mondial, que, alors déjà pour la langue, les recherches sont pour un tiers en français, sachez-le, un tiers en anglais, et un tiers en espagnol ou portugais. Là, je vais vous donner des chiffres désormais. On sait également que 77% sont des acheteurs actifs, 16% ont reporté leur projet d'achat et 7% ont déclaré avoir acheté un bien au cours des 6 derniers mois. Assez étonnamment, les Français représentent 42% des recherches sur PropStar, suivi des Portugais à hauteur de 19%. Les Américains, quant à eux, représentent 12%. Les Britanniques, 11%. Les Allemands, 8%. Et enfin, les Suisses, 7% des acheteurs. On précise également, enfin, ce site nous précise que 58% des recherches pour des biens sont jusqu'à une fourchette de 250 000 euros. Dans la tranche des 250 à 500 000 euros, 20% et 22% au-delà de 500 000 euros. La moitié des personnes interrogées, c'est-à-dire 47,5%, souhaitent tout d'abord acheter une résidence secondaire. Ensuite, 44,3% de ces personnes recherchent une résidence principale. Et 8% recherchent, quant à eux, des opportunités d'investissement. Je poursuis avec les chiffres, puisque 23,5% des acquéreurs ont finalisé l'achat d'une propriété dans les 6 à 12 mois, suivant le début de leur recherche. Et 20% ont déclaré avoir finalisé leur achat en moins de 3 mois. Mauvais point pour les agents immobiliers, ce que nous transmet PropStar. 21% des acheteurs étrangers disent qu'ils n'ont pas eu de réponse de l'agent quant à leur recherche.
Et bien alors, ils ont trop de travail ?
Ah ouais, c'est pas bien ça.
Non, c'est pas bien. C'est quand même la base de la base, enfin.
Exactement.
Mais merci pour ces chiffres, Ingrid. C'était intéressant. Et puis ça démontre aussi que les idées reçues ne sont pas toujours réalité. Merci pour ça, Ingrid. André, vous vous intéressez plutôt à la perspective pour cette nouvelle année. Quelle tendance se détache pour l'investissement immobilier international ?
Alors 2022 devrait être l'année de l'investissement immobilier international. Les bas de laine sont bien remplis. Les taux d'intérêt restent très, très faibles, bas niveau, et ça devrait encore rester en 2022. Et le travail à domicile permet des avantages, un mode de vie de villégiature, presque les vacances en télétravail. Donc les marchés de résidences secondaires connaîtront certainement un afflux de clients prêts à acheter, même hors saison. Le marché du luxe est aussi sur le point de connaître une saison très active cet été. Le Covid, évidemment, a créé des gagnants et des perdants. Parmi les gagnants se trouve le marché immobilier américain de l'immobilier de luxe. C'est une augmentation de 19% de la demande de propriété de luxe par des étrangers aux États-Unis. Lorsque les voyages internationaux et l'immigration reprendront, un deuxième boom du marché immobilier nord-américain est attendu. Le premier, c'était depuis 2 ans. Nouveau rebond. Et ce nouveau boom sera alimenté par une forte présence d'acheteurs et d'investisseurs étrangers. La Floride, notre ami Daniel nous en parlera tout à l'heure, continue d'être la région des États-Unis qui attire le plus d'investisseurs étrangers.
Merci André pour toutes ces précisions. On va pouvoir maintenant partir à la rencontre de nos deux agents du World Property Business Club du mois.
Les agents immobiliers du World Property Business Club.
Et oui, je vous le disais, pour cette émission de rentrée, non pas un agent, mais deux agents du mois. Caroline Loget, Olivier Cassado, les cofondateurs de Caro et Olive. Et je vous laisse avec Ingrid Damoiseau.
Bonjour Caro et Olive.
Bonjour Ingrid.
Alors, je vais commencer par interroger Caroline. Caroline, pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre association avec Olivier ?
Eh bien, en fait, avec Olive, on s'est rencontrés dans le cadre des émissions...
Parlez bien en face du micro, Caroline.
...des émissions télé qu'il produisait à l'époque avec Bruno Wetzmann. Donc, on a travaillé pendant plus de 4-5 ans ensemble sur les émissions Enquête d'appart, Carrément bien. Et moi, en fait, j'étais la consultante officielle de cette émission où, en fait, je présentais au travers de mon agence 5 pièces et plus, donc une agence que j'ai créée en 2014, des biens donc sélectionnés un peu partout en Île-de-France et aussi un petit peu en province, notamment dans le sud-ouest, dans la région de Bordeaux. Donc on a travaillé ensemble comme ça pas mal de temps. Et puis malheureusement, avec le Covid, les tournages ont dû être arrêtés. Et donc, avec Olive, on avait quand même bien envie de continuer à faire des choses ensemble. Et on a un petit peu réfléchi et c'est venu finalement de manière assez naturelle. On s'est aperçu qu'on avait quand même pas mal d'expertise complémentaire. Et puis donc on a décidé ensemble de monter la marque Caro et Olive, qui est vraiment une marque très différenciante. Et donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a décidé de faire ensemble avec
cette
marque.
Ça s'est passé juste après un dîner.
Oui.
Assez arrosé. Et on sait très bien ce qui se passe après les trucs arrosés. Souvent, ce sont les meilleures idées du monde.
C'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez explosif et on est à 300%. On sait parfaitement, on se connaît très bien et on sait parfaitement comment on travaille l'un et l'autre. On savait que pour ce projet, il fallait beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Hein, parce que même si on est comme ça un peu détendu, on travaille comme des fous. Hein.
D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de votre agence ? Quelle est votre clientèle ? Alors, comment vous travaillez en fait ?
Déjà, ce qu'on aime bien dire tous les deux, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas du tout une agence de biens, on est plutôt une agence de clients. En fait, alors nous, chez Caro et Olive, on fait vraiment que de la transaction et on a fait le choix dès le départ de faire vraiment des petits volumes et de travailler vraiment avec des personnes qu'on a le luxe de pouvoir aussi choisir. C'est-à-dire qu'on a une relation très, très privilégiée avec nos clients. Et donc, finalement, c'est ce choix de faire peu de volume, c'est aussi pour assurer finalement un service vraiment du sur-mesure et donc un service de premier ordre partout en France.
On a envie d'une relation un peu plus que celle de l'acheteur et de l'agent immobilier qui va... très souvent faire très bien son travail, mais on a envie d'un peu plus et on trouve que la population qu'on représente, nous, d'acheteurs, a besoin de plus. Mmh, ils ne se retrouvent pas forcément dans une relation simple d'agent immobilier à client et ils ont besoin d'un peu plus et c'est ce qu'on leur propose d'offrir. En faisant ça, on ne peut pas en faire beaucoup parce que ça prend trop de temps. Donc il faut qu'on soit très précis sur ce qu'on fait et que la frappe soit chirurgicale.
D'accord, d'accord, très bien. Et votre clientèle, donc, quelle est-elle finalement en fait ?
Alors en fait, notre clientèle, elle se compose essentiellement de familles, mais aussi de chefs d'entreprise, de personnalités. On a aussi la chance d'avoir pas mal d'artistes, de people. Et en fait, je pense que ce qu'ils apprécient vraiment dans notre relation, c'est aussi ce côté très confidentiel, cette relation en fait très humaine qu'on a avec eux.
D'accord, d'accord. Alors, je poursuis avec Olivier, justement, puisque vous parliez de votre clientèle people, etc. Olivier, vous êtes passé de l'animation d'émissions TV à la réalité de l'agence immobilière.
C'est dur. Hein.
C'est dur.
Oh.
Et comment ça s'est passé ? Alors, comment vous avez...
Avec du vin. Non, je plaisante. Alors, on a le droit quand même un peu. Comment ça s'est passé ? Bah, comme Carole a dit, une petite dizaine d'années de production et d'animation d'émissions de télévision essentiellement, sur plusieurs chaînes différentes. On a eu la chance d'avoir pas mal de succès là-dedans. Donc, les chaînes nous ont tour à tour un peu dragué. On a terminé sur TMC du groupe TF1. Et puis le confinement est arrivé, et effectivement on n'avait plus le droit d'envoyer de cadreur, on n'avait plus le droit d'avoir de régie. Le monsieur qui était derrière, là, par exemple, il n'a plus le droit d'être là. Et donc ça a un peu tout arrêté, tout bloqué. C'était une grosse industrie, puisque au plus fort des émissions, lorsqu'on était sur TMC, c'était 40 personnes qui travaillaient sur l'émission. C'est une émission quotidienne, avec tout ce que ça implique. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était le parfait break pour moi. C'est-à-dire que 10 ans d'émission, 10 ans de quotidienne... C'était le moment où probablement j'avais envie de souffler, d'en sortir un petit peu. Il se trouve que pendant toutes ces années d'émission, on a reçu beaucoup d'artistes, de people, de comédiens, de chanteurs, de choses comme ça. Et que invariablement, peut-être 80% des cas, tout le monde me disait en sortie d'émission, « Ah tiens, du coup, il faudra que je t'appelle parce que je cherche à vendre et je cherche à acheter. » Et à chaque fois, je disais « Non ». Parce que j'avais pas le temps. Parce que... Et donc j'envoyais ça chez des confrères. Et en fait, au cours de ce dîner... Je lui dis, ah tiens, on va dire oui maintenant. Et donc, c'est une partie de notre clientèle, ce sont des artistes qui, comme on se donne beaucoup de mal, comme le disait Caro, bien nous recommandent, souvent à d'autres artistes. Et donc, du coup, on a constitué deux grandes familles d'industriels et de personnalités publiques, on va dire.
D'accord, d'accord. Alors, je reviens là, désormais, à l'immobilier. En tant qu'agent immobilier, comment ressentez-vous le marché immobilier en ce début d'année 2022 ?
Bah, je pense qu'on est un peu comme tout le monde, en fait, sauf qu'on a une proportion de la part un peu plus faible. Ça a été très calme, enfin, faut pas se le cacher, ça a été très, 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 très calme. Là, on sent un frémissement depuis... Mais alors, attention, hein, on parle de frémissement, là. Hein. Ça, depuis quelques jours, peut-être semaines, on sent qu'il se passe de nouvelles choses. Mais encore une fois, je ne sais pas si on peut se ranger... dans la catégorie des agents immobiliers traditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a quand même une toute petite partie de la clientèle qui, elle-même, n'est peut-être probablement pas représentative. Mmh. Parce qu'on a beaucoup de chance, on a une clientèle qui est plutôt aisée. On sait en règle générale que dans toutes les grandes tempêtes économiques immobilières, c'est rarement la plus touchée, c'est rarement la plus maussade. Elle est souvent relativement dynamique. Mais à nous, c'est un peu pareil, effectivement. Peut-être que, à l'inverse de nos petits camarades de jeu qu'on adore, les agents immobiliers, eh bien, peut-être que quand eux, ça a beaucoup freiné, nous, on a presque senti l'inverse. On a senti que les gens qui avaient beaucoup d'argent avaient un besoin et une envie de la dépenser dans l'immobilier, ce qui est souvent le cas en général. Donc, on a plutôt bien marché pendant ces périodes-là.
D'accord. Alors justement, vous commercialisez des biens de luxe. Est-ce que vous ressentez que les étrangers reviennent
moi, je vais sur le marché français ? Déjà, je commence par dire qu'on ne fait pas que des biens de luxe.
Oui, oui, c'est ce que j'avais compris.
En fait, on ne fait pas que des biens de luxe. Il se trouve qu'on en a eu pas mal. Mais comme le disait Caro, on est une agence de clients. Un client, il a ce qu'il a. Il n'est pas forcément luxueux. On a des personnalités qui ne sont pas non plus des gens qui sont milliardaires. Hein. Donc on a des personnalités toutes simples qui ont besoin de choses toutes simples. Donc il nous est arrivé, il nous arrive encore de faire des 3 pièces, des 4 pièces, des choses comme ça. par la force des choses, ça a drainé une population qui était aisée, et donc on a des grosses propriétés, des gros biens. Pour répondre précisément à votre question, le marché étranger, on l'a très peu vu. On a eu quelques contacts d'Italie, je crois, un petit peu des US, mais alors vraiment, c'était très light. Et on voit bien qu'il y a un problème là-dessus. C'est-à-dire qu'on a deux propriétés, particulièrement dans notre listing, qui sont des propriétés très, très haut de gamme, à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, clairement, il y a un blanc. C'est-à-dire qu'il y a un blanc à l'antenne, comme on dit là. Il ne se passe plus rien du tout. Là, ça reviendrait un petit peu. Et d'où l'intérêt du World Property. Ben oui, parce que c'est exactement ce à quoi ça répond. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous.
Voilà, c'est justement la question que j'allais vous poser.
Mais je sais.
Quels avantages tirez-vous donc de cette appartenance au World Property Business Club ?
Nous, c'est clairement une manière d'adresser en fait, déjà toutes nos annonces au travers des portails immobiliers internationaux et puis surtout d'avoir un contact très privilégié avec nos confrères de l'étranger.
Oui, ça répond à 100% de nos attentes. Il se trouve qu'en plus, on est des tout neufs. Hein, on vient d'arriver dans le club. André a eu la bonne idée de nous rassembler un petit peu une première fois et tout ça. Et on a vu que des gens, j'allais dire des gens bien, non, des gens comme nous, des gens sympas, prêts à faire, d'accord pour faire. Donc ça nous va très très bien. On attend de voir la suite maintenant.
Parfait, génial, super. Merci Caro et Olive.
Eh ben, merci. C'est nous.
Et merci à vous Ingrid. Allez, on enchaîne sur le focus pays de cette émission.
L'immobilier sans frontières, focus sur un pays.
Et direction la Floride, c'est pas d'ailleurs la saison des ouragans, pas encore ?
Non, c'est du mois de juin au mois de novembre.
Bon, alors ça va, on est tranquille, on peut dire qu'il fait beau. Direction le soleil de la Floride, donc avec vous, Daniel Kijner, vous êtes broker-owner de Kijner & Son International Realty, Compass Floride, et je vous laisse avec André Périssel.
Alors Daniel, on se connaît depuis longtemps, vous êtes à la fois un célèbre adhérent de la FNIM et un agent immobilier américain émérite. Quelle est la situation, la situation sanitaire en Floride actuellement ?
Alors, je vais vous répondre, mais je vais juste faire une petite correction pour éviter tout malentendu. Pour Compass, je suis ce qu'on appelle un broker associate. Je ne suis pas le propriétaire, même si je suis actionnaire. Et je n'ai aucune position de dirigeant, je suis indépendant. Et c'est un élément très important. Nous avons échangé avec vos autres invités pour essayer de faire comprendre justement quelles sont les attentes et quelles sont les possibilités. On pourra en discuter si vous voulez. Concernant le marché de Floride, si c'est ta question actuellement, le marché marche très très bien. On a une énorme demande de plusieurs origines. La première, elle est d'abord intra-américaine. On a beaucoup de gens qui sont venus de New York, déjà pour commencer. C'est New York, New Jersey, Connecticut, Boston. Et puis, on a une deuxième partie qui vient de la côte ouest, dont la Californie, entre autres. Alors, il y a des raisons multiples et variées. Je pense qu'on n'aura peut-être certainement pas le temps de tout couvrir. Il y a des raisons d'ordre économique, il y a des raisons d'ordre fiscal pour les Américains. Et puis, il y a le fait aussi d'ordre politique. Donc, on va passer là-dessus. Mais beaucoup d'Américains ont profité de l'opportunité, entre guillemets, je dirais, de cette pandémie pour se reprojeter au niveau de leurs investissements et de leur activité compte tenu des contraintes qui sont apparues. Et la Floride est un des rares États. Et c'est un peu compliqué parce que ça implique des problèmes d'ordre politique, mais le gouverneur a absolument prohibé tout ce qui pouvait gêner le maintien des activités, contrairement à ce qui s'est passé à New York et contrairement à ce qui s'est passé en Californie. Je ne porte pas de jugement. J'ai des opinions, mais la situation a fait que beaucoup de gens ont souhaité redistribuer leur activité. Donc on a beaucoup de compagnies qui ont transféré leur siège ou créé de nouveaux sièges. Donc ça a été le cas d'IBM, ça a été le cas d'Amazon. Ça a été le cas aussi de Microsoft, qui vient d'acheter à Miami pour plusieurs milliards de dollars de nouvelles opérations commerciales. Et puis, des fois, il y a la chance qui fait que certains développeurs ont lancé des programmes en blanc, en avance. On parle de plusieurs milliards de dollars, comme Brickell, que André a eu l'occasion de voir plusieurs fois en venant. On parle de 6 ou 7 milliards de dollars minimum. Et ils ont lancé en blanc. Et puis, la pandémie est arrivée. Et du coup, ces biens étaient disponibles. Et donc, les gens ont acheté. Ça a permis déjà de fluidifier le marché. Et puis, on s'est retrouvé, à force de fluidifier, avec un manque de biens. C'est-à-dire l'inverse de ce que vous semblez, vous, avoir en France actuellement. Et le grand problème, c'est que tous les gens qui ont acheté depuis 60 000 dollars, c'est-à-dire à peine 50 000 euros, le prix d'un beau parking, on va dire, jusqu'à plusieurs millions et dizaines de millions, le marché s'est trouvé en une totale frénésie. Et on a des hausses comme uniquement l'année dernière, 25% sur Miami. D'autres régions ont connu plus. Tampa, par exemple, est considéré aujourd'hui même comme le marché le plus dynamique de tous les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du retard. Et donc, comme le principe du vide n'existe nulle part, du coup, tout le monde s'est retourné vers la région de Tampa et a commencé à acheter, soit pour l'investissement, soit pour profiter de maisons individuelles, qui est un autre des éléments qui ont fait que le marché français aussi, d'ailleurs, s'est développé hors de Paris, avec la grande banlieue ou la province. Et ça, c'est un élément qui, aux États-Unis, est important, puisque on a ces cycles de développement urbain, puis périurbain, et puis hors... carrément de tout urbanisme. Et la pandémie a certainement créé une demande très, très forte. Après, on a aussi le fait que les impôts aux États-Unis et en Floride en particulier sont beaucoup plus faibles. Donc, beaucoup de gens ont tiré profit de cette opportunité pour venir s'installer. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'État de Floride, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impôt du tout.
Est-ce que c'est un avantage aussi pour des investisseurs français ?
C'est un avantage, mais ça n'interdit pas de devoir faire ses déclarations en France, ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier parfois. Le fait d'investir aux États-Unis n'enlève pas, je dirais, les obligations déclaratives ni les impôts éventuellement dus. Alors, les impôts sur le revenu, les impôts sur la plus-value. Et les Américains ont mis en place un système que les Français ont bien entendu copié assez rapidement, à savoir de créer des conditions d'imposition minimale. Quand vous êtes non-résident français et que vous avez vendu un bien avec un profit en moins de la durée de détention nécessaire, que ce soit la partie immobilière ou la partie sociale, puisqu'on parle de 22 et de 30 ans, on se retrouve à avoir à faire appel, via le notaire, à une société de garantie. Et ça coûte de l'argent. Au-delà de 150 000 euros, si je me rappelle bien, vous êtes tenu de procéder, et je ne parle pas de 150 000 de profit, mais de la vente. Donc, il y a partout des contraintes, et c'est là où on a besoin d'un professionnel pour être accompagné. C'est là où on a besoin de quelqu'un qui soit suffisamment à même d'apporter, s'il n'est pas habilité légalement, puisque ça aussi, aux États-Unis, c'est un élément important, à savoir que si vous n'avez pas les diplômes nécessaire, vous ne pouvez pas pratiquer de conseil, mais vous pouvez faire appel éventuellement, ou pas éventuellement, mais vous devez faire appel au meilleur professionnel. Alors, est-ce que le client français est disposé à le faire ? Ça, c'est une autre question. Et la meilleure manière de le savoir, c'est de poser éventuellement cette même question à ses conseils usuels, c'est-à-dire l'expert comptable ou le notaire français, et on a parfois des surprises. Le français n'est pas toujours disposé à payer le prix qui peut être onéreux. Mais ça, c'est le début. Le réinvestissement ultérieur devient tout à fait gérable. Nous avons des rendements aujourd'hui qui sont minimum entre 5 et 7%. Alors, il n'y a pas de garantie, bien entendu. Personne ne peut garantir que le rendement se va perdurer, mais on a des conditions qui font, pour répondre à cette question de l'imposition, le français, s'il structure bien et selon le montant de l'investissement et le type d'investissement, a de grands avantages. Donc il y a des choses à travailler. Et je pense que le club a un grand bénéfice à pouvoir tirer d'une relation plus... avec une implication plus importante, avec une formation et une information qui pourrait vous aider.
Il nous reste une minute. André, on se penche peut-être sur le profil des investisseurs en Floride ?
Investisseurs en Floride, des Américains, évidemment, tu nous en as parlé, des Français, des Canadiens, je suppose.
Alors, on a des Canadiens et, comme tout, l'origine de l'investissement est fonction de la facilité de déplacement. C'est-à-dire que sur la côte Est, on a beaucoup de gens qui sont venus du côté de New York, de Montréal, etc. Alors que du côté Ouest de la Floride, on a plus de gens qui sont venus du côté de Toronto ou de l'Ontario, etc. Ça, c'est pour la partie canadienne. Mais on a eu beaucoup d'Anglais à une époque. Et c'est cyclique. Et les Anglais qui ont de gros problèmes d'acquisition, parce que les coûts sont très onéreux en Angleterre pour devenir propriétaire, ont mis en place un système, entre guillemets, qui est d'acheter à l'étranger, d'acheter pas cher, de faire beaucoup de travaux, de retaper, d'en tirer profit à titre personnel, de venir en vacances, comme ils ont pu faire en France, dans le Périgord ou dans d'autres régions. Et puis, après 15 ans ou 20 ans, de le revendre avec profit et d'avoir, cette fois, le montant suffisant pour pouvoir acquérir dans leur pays ultérieurement et éventuellement pour une retraite. Et ça, aux États-Unis, c'est démultiplié parce que, une fois qu'on a été capable de mettre en place, je dirais, une structure qui tienne la route et qui soit bien gérée avec les bons accompagnants, on a la possibilité, justement, de monter en gamme et de tirer profit de la situation aujourd'hui où le marché est explosif. Des choses qui ont été achetées à 150 000 il n'y a même pas deux ans valent 400 000 aujourd'hui. Donc, il y a non seulement du rendement, mais il y a de la plus-value. Ça, c'est aujourd'hui.
Merci, Daniel, pour ce beau tour d'horizon de la Floride.
Merci, Daniel. Merci, André. Allez, rapidement, on passe à l'agenda du World Property Business Club.
L'immobilier sans frontières, l'agenda.
André, deux événements qui auront lieu au mois de février.
Février, les 9 et 10 février à Toronto, le Global Property Market, le salon international nord-américain de l'immobilier. Pour ceux que ça tente, très belle ville et très beau salon. Et pour les agents du World Property Business Club, mesdames, messieurs, nous avons un séminaire à Barcelone, une rencontre avec les professionnels de l'Association des professionnels immobiliers de la Catalogne. Et ce sera du 25 au 27 février.
Merci André, les rendez-vous sont bien notés. C'est toujours des chouettes endroits que vous nous trouvez.
Le monde est tellement beau.
Merci André. Le temps de remercier nos trois invités du jour, Caroline Loger, Olivier Cassado et Daniel Kijner. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur le plateau ce matin. Merci à vous André Périssel, Ingrid Damoiseau. C'était évidemment un plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Immobilier sans frontières. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur notre site radio.imo, sur notre application et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Je vous laisse pas le chemin, vous le connaissez. Merci à vous, très bonne journée et à bientôt sur Radio Imo.
L'immobilier sans frontières, à écouter et télécharger gratuitement sur radio.imo.